Il ne faut jamais oublier que, au point de vue de la phénoménologie d'aujourd'hui, comme font ceux qui nous côtoient tout le temps, ceux qui marquent l'atmosphère de notre monde et de nos réflexions philosophiques, que Husserl était un matheux et que le nœud de sa pensée, c'est pour exprimer ce qu'est la phénoménologie, la mise entre parenthèses de l'être. Vous voyez, essayez de voir ce que ça peut représenter pour un esprit. Supprimer le support, jugement d'existence, mise entre parenthèses l'être. Donc, pratiquement, il n'y a plus de jugement. Et tout se ramène à l'appréhension. Puisque quand vous dites « ceci est », « si est » est mis entre parenthèses, vous avez ceci. Donc tout est saisi quiditativement. La détermination, et par le fait même, il n'y a plus que la cause formelle. Il n'y a plus que la détermination de la forme, quiddité. Et regarder en tant qu'elle est vécue, c'est-à-dire en tant qu'elle est pensée. Pas le ceci est. Quand vous dites ceci est, vous dépassez ceci pour vous arrêter à « est ». Est. L'être. Et votre intelligence se repose sur l'être. Le ceci est dépassé. Le ceci est secondaire. C'est une voie d'accès à l'être. Mais mon intelligence s'intéresse surtout à ça. Or, vous supprimez ça, mise entre parenthèses, de l'être. Alors, par le fait même, le repli de l'intelligence, c'est terrible, hein ? Le repli d'intelligence sur ceci, alors, de là, si vous êtes chrétien, si vous êtes théologien, qu'est-ce qui se passe au point de vue de la foi? Puisque la foi ne m'apporte aucun jugement, la foi ne m'apporte aucune appréhension nouvelle, donc aucun ceci nouveau. Aucun ceci nouveau, aucun ceci vécu. Donc la foi disparaît. Parce que le propre de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu existe dans votre credo. Dieu existe, Dieu le créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. C'est un jugement. Toute ma foi est dans un jugement. C'est l'importance de la foi. Mon jugement de chrétien me met en contact direct avec Jésus, avec le Père, qui me parle. Ce n'est pas le Père créateur, non. La foi me met en contact direct avec le Père qui me parle. qui me révèle. Dieu a parlé à Abraham. Le jugement d'existence philosophique est présupposé. Mais il n'est pas là pour gêner la foi. La philosophie permet à la foi d'être plus pure. Elle ne gêne pas, mais elle permet de comprendre, parce que je crois que c'est vraiment par la philosophie que je peux comprendre ça, que la foi est dans un jugement pur de croyant qui fait toucher l'éternité. La foi me fait toucher l'être divin, Dieu, le Père, qui me parle. Le Père me parlant. Et toutes les paroles divines sont saisies comme des paroles vivantes, liées à leur source. Dans la foi, je ne peux pas séparer l'aspect quiditatif, le ceci de du Père me parlant. Parce que le Père a tellement de bonté qu'il se cache derrière la parole humaine. Oui, le masque. Les anciens prenaient un masque. Et le Père prend un masque pour nous parler. C'est notre parole humaine. Alors, les gens s'intéressent beaucoup au masque et plus à la personne. C'est ça l'exégèse scientifique moderne. Et c'est pour ça que la foi l'exégèse des protestants et l'exégèse des catholiques est considérée comme la même. Or, la foi du protestant et la foi du catholique n'est pas la même. Quand je regarde une parole vivante, je la garde en tant qu'elle vient de Dieu. Elle est vivante parce qu'elle lit, saint Thomas dit, parce qu'elle lit à sa source. C'est ça la parole vivante. C'est l'eau vive, quoi. C'est l'eau jaillissante. L'eau jaillissante du cœur de Jésus, puisque c'est le Sacré-Cœur aujourd'hui. Jaillissante du cœur de Jésus. Et sa source est le cœur de Jésus. Et je ne peux pas séparer l'acuité de l'existence. Alors vous voyez ce qu'il fait au point de vue phénoménologique. Et ça, nous avons le devoir d'y penser. Parce que ce sera la grande tentation. Je vous avertis d'avance. Vous serez tous tentés. À 30 ans, si vous avez maintenant 25 ans ou 30, à 35 ans, 40 ans, d'être féminologue. Et le réalisme, non ? C'est la grande tentation. C'est la grande tentation moderne, n'est-ce pas ? Moi, j'entends tout le temps dans mes oreilles ce qu'on m'a rapporté, le dialogue du directeur. D'université catholique avec Bourgeois. La phénoménologie ne connaît plus la causalité parce qu'elle ne connaît plus l'être. Elle ne connaît plus la causalité. Elle ne parle que de participation parce qu'elle ne connaît que la forme. Alors c'est la participation. Et voyez, d'autre part, alors là, saint Thomas est très net là-dessus, la foi ne me donne aucun concept nouveau. Alors, si je supprime l'être, je le mets entre parenthèses. Il n'y a plus de distinction entre foi et philosophie. Et comme la philosophie est poussée jusqu'à l'extrême, plus de place pour la foi. Il n'y a plus de place pour Marie et pour Joseph à l'hôtellerie. C'est très important dans un jugement de sagesse de bien saisir ça. Voyez, autrement, de saisir que le propre d'une intelligence créée est de ne pas être substantiel. Même si vous ne comprenez pas très bien maintenant, réfléchissez là-dessus. Parce que c'est ça le nœud. Si mon intelligence était substantielle, vous comprenez, elle serait simple. La substance est simple. Si mon intelligence est participée, elle est double. Alors, où se situe la dualité de mon intelligence ? Où se situe exactement le fait que mon intelligence n'est pas celle de Dieu. C'est important, ça. Mon intelligence humaine. Et mon intelligence humaine, d'autant plus que mon intelligence humaine est dépendante de mon corps, de ma sensibilité. Avec les réalités extérieures, sensibles, qui m'entourent, avec mon petit univers, mon contact, c'est ma sensibilité. C'est la diversité du toucher, de la vue, de l'odorat. C'est mon monde. Les sens, c'est mon monde. Et mon intelligence se nourrit de mes expériences. C'est pour ça que je les aime, mes expériences. C'est mon intelligence se nourrit cela. Je dois être suffisamment intelligent pour dépasser mon expérience, ne pas rester dans l'expérience. Dans le sensible, dans l'imaginaire, qui est encore du sensible, et arriver à l'intelligible, la quiddité, l'essence intelligible. Mais quand j'arrive à l'intelligible, je retourne au singulier, dans la lumière de l'intelligible. Je dis, ceci est. J'ai donc en moi, dans mon intelligence, ces deux aspects. Je me souviens très bien, à un moment donné, il y avait une petite querelle, c'était au seul choix, mais les intellectuels sont toujours en querelle. Hein. Ils ne se dépassent que dans la foi. Ou dans un jugement de sagesse. Alors c'était un professeur qui disait, vous êtes trop dans l'appréhension. Et lui était trop dans le jugement. Si vous êtes trop dans le jugement, vous restez toujours dans l'expérience. Vous avez peur de quitter le jugement, ceci est. Et l'appréhension. Et alors, on comprend très bien, si vous êtes trop dans le jugement, l'existentialisme, la réaction de l'existentialisme, c'est le vécu. C'est de regarder que l'appréhension. et de mettre entre parenthèses l'être. Parce que quand il met entre parenthèses l'être, il met en réalité et le verbe être, ceci est. Le fruit du toucher, c'est cet être réaliste que mon intelligence n'assume pas, n'assimile pas. La réalité qui est devant moi, que je touche, mais je n'assimile pas. Son être en acte, son existence, résiste à l'assimilation. Il est. Vous pouvez simplement le caresser. C'est-à-dire toucher tout doucement. Mais en le touchant, vous touchez une réalité autre que vous. Vous faites cette expérience quotidienne, mais vous n'y pensez pas. Mais chaque fois que vous touchez, même une table, vous touchez un obstacle. C'est un obstacle pour ma pensée. Parce que ce bois, il me résiste en tant qu'il existe. Pas en tant qu'il est bois. Je le connais. Je sais ce que c'est que le bois. Mais le bois qui existe, celui-là qui est réel. Oui, je comprends très bien un matheux qui dit, mettez entre parenthèses, et puisque c'est ça qui est la résistance. Alors vous serez là, heureux, plus de résistance, plus de dualité, vous serez chez vous, dans votre domaine, ce qui est pensé, ce qui est vécu, je l'ai avec moi. C'est ça la grande séduction. Tandis que dès que je suis attentif à ceci est, le ceci qui est m'échappe. Il me résiste. Il existe. Il est autre que moi. Il n'est pas moi. Il n'est pas ma pensée. C'est très ennuyeux, ça. Alors, on voit très bien comment un mathématicien qui veut l'ordre, qui veut avancer, mettez entre parenthèses et l'être, et le chemin est libre. Vous enlevez la barrière. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez plus rejoindre l'être. Vous êtes uniquement solitaire avec vous. Alors, au terme, il faut bien mettre quand même quelque chose d'absolu, c'est la valeur. Dieu est la valeur suprême. Mais Dieu est la valeur suprême, vous faites votre Dieu. Et alors on fait son Dieu. Et quand vous faites votre Dieu, vous dites, Dieu existe grâce à moi. Donc c'est moi qui suis Dieu. Parce que vous ne pouvez pas supprimer votre être. Vous pouvez supprimer l'être que vous voyez, que vous touchez, que vous savourez. Ça, vous pouvez le supprimer, mais votre être, il a oublié quand il dit, je mets entre parenthèses l'être, mais qu'est-ce qu'il met entre parenthèses l'être? C'est votre être. Poussez la critique jusqu'au bout. C'est votre être. Ah non, vous devez mettre l'être entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Parce que quand vous pensez, c'est vous. Et vous faites la distinction parce que votre pensée est liée à votre source. Et votre source, elle est. Elle n'est pas pensée. C'est grâce à elle que vous pensez. Autrement dit, l'être, si on le chasse, il revient encore plus fort. C'est ça qui est curieux. Chassez l'être objectif, vous ne trouvez plus que l'être subjectif. Et vous avez la subjectivité parfaite. Mais vous la faites exister dans votre pensée. Alors, nous avions vu, et c'est très important, la diversité des modes de ma connaissance. Et je saisis en définitive d'où provient cette diversité. C'est de cette dualité de mon intelligence qui appréhende et juge, qui saisit les formes, les quiddités, et qui discerne ce qui est. Et vous avez donc bien, vous pouvez le dire, deux formes d'intelligence. Une intelligence, mais vous voyez, c'est différent de dire deux formes d'intelligence. Je maintiens les deux. Mais il faut reconnaître qu'il y a des intelligences qui sont plus appréhensives et des intelligences qui sont plus discernées, qui discernent mieux. L'idéal, ce serait les deux. Les formes, les intelligences plus appréhensives, ce sont les intelligences plus intuitives. Et les intelligences plus discernées, c'est les intelligences plus réalistes. Et vous avez bien deux aspects de l'intelligence, l'intuition, l'expérience. Ça, je voulais vous ajouter, dans un jugement d'existence, vous voyez que la diversité d'une intelligence participée, comme l'intelligence humaine, elle a ses deux formes, deux manières d'être intelligent. Vous avez toujours ce recours, si on vous dit, si un professeur vous dit, vous n'êtes pas intelligent. Ah, oh, pardon, je n'ai pas la même intelligence que vous. Il faut vous dire ça intérieurement. Pour vous, surtout pas extérieurement. Mais intérieurement, c'est pas étonnant. Vous ne comprenez pas. Vous avez une intelligence intuitive. Moi, j'ai une intelligence d'expérience. Et c'est très net. Hein. Quand on dialogue avec quelqu'un, on voit tout de suite ces deux formes. C'est normal. Je voudrais regarder maintenant, puisque nous avions vu la recherche de la vérité, et dans cette recherche de la vérité, mon intelligence avance, appréhension, jugement. Tout le temps, appréhension, jugement. La ratio est le mode. La ratio intellectus est le mode intelligence humaine. Et en définitive, ces deux modalités, je les retrouve. Appréhension, jugement. Ceci pour vous donner un regard de sagesse sur votre intelligence. Le regard de sagesse sur votre intelligence, c'est de voir que vous êtes intelligent, que nous sommes tous intelligents, mais que nous avons tous une intelligence participée. Donc, limité. Et si elle est limitée, il y a donc ratio intellectus que je peux saisir en moi. Et puis ce mode humain, rationnel. La ratio intellectus me montre l'intuition ultime, saisir ce qu'est l'intelligence. J'ai la possibilité de saisir ce qu'est l'intelligence. Et je saisis aussi ce que c'est que ma pauvre intelligence humaine liée au toucher. Elle est rampante. Le serpent, c'est son ventre qui touche la terre. Touché. Et c'est vrai, le péché ne touche pas l'intelligence. Les conséquences du péché, au point de vue de la foi, au point de vue de la foi, mon intelligence est restée intacte. J'ai la même intelligence qu'Adam, avant le péché. C'est pour ça qu'il est mon père. S'il avait une autre intelligence, je n'irais pas. Mais la même intelligence. Ce qui montre que le gouvernement philosophique, le gouvernement de Dieu, philosophiquement, est le même sur Adam que sur moi. Parce que nous avons la même intelligence. Et Dieu, en tant que Père, en tant que Créateur, me dirige de la même manière. La ratio intellectus. Et puis, ce mode, il est le même aussi pour Adam et pour moi. Mais à cause du péché, il y a un poids énorme d'être comme le serpent, le ventre qui touche la terre. Alors le ventre qui touche la terre, c'est-à-dire qu'on ne décolle jamais. Et on reste dans l'expérience. C'est symbolique, ce que je vous dis là, mais c'est une réalité très grande. C'est dit dans l'Écriture. Alors, je veux maintenant, après l'intelligence, c'est l'amour. Avoir une vision de sagesse de ma volonté. C'est important. Parce que là, je suis obligé, hélas, de dire, au point de vue foi chrétienne, que je n'ai pas la même volonté qu'Adam. Et je m'en aperçois tous les jours. J'ai beaucoup de peine de retrouver ma volonté première. La vie religieuse me conduit à retrouver cette volonté originelle. C'est dit dans l'Écriture, c'est dit dans la liturgie, ça. La messe pour les religieux. La messe en l'honneur des religieux. Mais au point de vue purement philosophique, sans regarder la volonté d'Adam. Au point de vue purement philosophique, la volonté me paraît tout de suite, quand je la regarde, comme volonté très anarchique, très diverse. Une très grande diversité d'actes volontaires. Qu'est-ce qui fait l'unité de toute cette diversité? C'est facile à comprendre la diversité de l'acte volontaire. En éthique, on voit ça très bien. La volonté, elle apparaît dès le point de départ. Il n'y aurait pas d'éthique s'il n'y avait pas de volonté. Les intentions, le choix, l'usage, la volonté est toujours là. Mais d'une façon très très diverse. Qu'est-ce qui fait l'unité de la volonté? C'est l'amour. L'acte propre de la volonté, c'est l'amour. C'est là où je vois la très grosse différence entre Aristote et Descartes. Et c'est important de le souligner dans une vision de sagesse. Pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, la volonté est un appétit spirituel, appetitus spiritualis, un appétit. Et la volonté, quand elle est en face d'un acte parfait, c'est l'amour. J'aime. L'appétit incline sur le désir, sur le devenir de l'amour. Mais dans le désir de l'amour, il y a l'amour. Et donc, l'amour est antérieur au désir. Et c'est bien ce qu'il y a de plus profond et de plus unique dans la volonté. J'ai en moi une possibilité d'aimer. D'aimer spirituellement une personne, parce que je n'aime spirituellement qu'une personne. Je n'aime pas spirituellement un petit gâteau, un bon beefsteak. Je n'aime spirituellement qu'une personne. Et c'est pour ça que les braves mères italiennes disent à leur enfant, je veux te manger. C'est une expression tout simplement métaphorique pour exprimer l'amour spirituel avec l'amour sensible. Et c'est vrai. Aimer, c'est l'acte foncier de la volonté. Et ceci fait tout de suite comprendre pourquoi l'intelligence ramène tout à elle. La volonté fait tout sortir d'elle-même. La seule chose que je n'ai pas ramenée à moi, c'est l'être qui est au-dessus de l'intelligence. Et c'est pour ça que je ne peux pas assimiler l'être. Je l'affirme. J'adhère. La volonté, c'est le don de soi. Alors, puis-je tout donner ? C'est important de voir ça. Puis-je tout donner ? Est-ce que l'amour est vraiment l'acte spirituel qui, au fond, en lui-même, n'a pas de limite ? Aimer, si je donnais, alors est-ce que je retrouve du côté d'intelligence la même limite que je trouve du côté de la volonté ? Du côté de l'intelligence, je vois la limite. Ceci est. L'être est antérieur à toute intelligence. Je ne peux pas assimiler l'être. Je le touche. J'adhère. Mais je l'assimile pas. J'ai bien un concept d'être. Oui, j'ai un concept d'être. Alors, je pourrais dire que j'assimile l'être. Mais je sais que ce concept d'être n'est pas l'être existant. Donc, l'être... Et la limite, c'est qui mesure mon intelligence. Est-ce que j'ai la même chose du côté de l'amour ? Quand j'aime, je veux tout donner. Est-ce que je donne tout ? Ou est-ce que l'amour qui porte sur le bien est-il justement quelque chose qui m'attire ? Mais il m'attire justement parce qu'il est plus que mon amour. La distinction d'Aristote, entelecheia et energeia, est-il une distinction analogue à la distinction appréhension et jugement ? Je reprends parce que c'est une distinction que Saint Thomas prend souvent et elle est très lumineuse quand on la voit, surtout en jugement de sagesse. Dans le point de vue de l'intelligence, j'ai vu que le propre de l'intelligence participée, elle n'est pas substantielle. Donc, elle est appréhensive et discernement. Est-ce que du point de vue de la volonté, je retrouverai la même chose ? En voyant ce qu'Aristote donne au point de vue de l'acte, un amour entelecheia, mon amour est toujours mon amour. Il n'est pas amour, il est mon amour. Il vient de moi, c'est moi qui me donne. Puis, il y a le bien qui m'attire, entelecheia. Le bien qui m'attire, il est energeia, je veux dire. Il est ce qui m'attire, ce qui est parfaitement acte. Autrement dit, l'amour le plus spirituel qui puisse être en moi n'est pas substantiel. Il est intentionnel. Donc je retrouve du côté de l'amour une dualité aussi. Alors que je voudrais tellement que l'amour soit absolument simple. Je voudrais que mon amour soit substantiel. Il y a un appel très fort dans l'amour à être substantiel. Et pourtant, il ne l'est pas. Il n'est pas substantiel. Je retrouve donc dans l'amour cette intentionnalité. C'est moi qui aime. Et quand j'aime moi, je ne me quitte pas. Je ne peux pas quitter ma substance. Alors mon amour, que je dis substantiel, il n'est pas substantiel. Il est intentionnel. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que toutes les querelles ou toutes les mésententes dans l'amour, c'est qu'un jour ou l'autre, entre deux êtres qui s'aiment, l'ami croyait que l'amour de son amour, que l'amour de son ami était substantiel. Et il ne pouvait pas l'être. Parce que l'amour n'a pas la lucidité de l'intelligence. L'amour n'est pas lucide hein, comme amour. C'est moi qui aime. Et on croit toujours que l'amour est substantiel. Alors, il n'est pas substantiel. Ma volonté est aussi participée. Ma volonté, quand elle aime une réalité substantielle, une personne, elle voudrait que cet amour pour une personne soit substantiel. Je voudrais bien. Je parle de l'amour humain, hein, pas du philosophique. Et je m'aperçois, et je dois m'apercevoir, que mon amour, qui voudrait être substantiel, ne l'est pas. Il y a donc à l'intérieur de l'amour une dualité. Il y a l'amour affectif et l'amour effectif. Et je comprends alors la diversité entre Thomas d'Aquin et Descartes. Descartes n'a vu que l'amour effectif. Thomas d'Aquin a vu l'amour affectif et l'amour effectif. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que Descartes, à sa manière, a marqué la philosophie. Alors c'est important de comprendre cette dualité interne de l'amour, affectif. Et c'est très troublant de voir que quelquefois quelqu'un affectivement vous aime vraiment, mais que l'effectif ne suit pas. Et on est tenté de dire, mais quoi, au fond, il ne m'aime pas alors. Non, il vous aime vraiment, mais affectivement, intentionnellement. Et il doit y avoir un obstacle que vous ne voyez pas, qui a empêché que l'effectif soit adéquat. Il n'est jamais totalement, hein, à l'affectif. quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour lui le prouver. Effectivement. Des petits cadeaux, des visites, c'est effectif. Travailler pour rendre la chose. Et toutes les difficultés qu'on a, c'est parce que on voudrait que affectif et effectif soient uniques. J'aime. Et j'aime, s'il était substantiel, serait unique, serait simple. Oui. En Dieu, l'amour est substantiel. Or, je pars de la vision divine. J'ai affirmé que Dieu existait. Et je vois que Dieu créant un être spirituel, nécessairement, dans cet être spirituel, il y aura intelligence et volonté. Que l'intelligence a cette dualité qu'elle reconnaît très bien. Et la volonté a cette dualité qu'elle a beaucoup de peine à reconnaître. Les gens très affectifs très souvent, l'affectivité à tout prix. Alors, il n'y a rien au point de vue affectif. Les gens très affectifs, mais comprenant ce que c'est que cette affectivité, elle n'est pas substantielle. Alors, ils essaient de rendre substantiel cet amour par l'effectivité, et il sait que l'amour humain a nécessairement les deux voies. Alors je peux faire un parallèle une fois que j'ai fait ces deux divisions de l'intelligence et de la volonté. Je peux les regarder. L'appréhension est à l'intelligence ce que l'affectivité est à la volonté. Le discernement est à l'intelligence ce que l'affectivité est à la volonté. C'est l'ordre inverse, hein. Au point de vue du jugement, tout se termine au jugement. Au point de vue affectivité, tout se termine à l'affectivité. Mais l'affectivité est nécessaire, mais tout se termine. Oui, c'est curieux. Et si on fait trop de décalque entre les deux, on croit que l'amour se termine dans le dévouement. Je me dévoue à cette personne, donc je l'aime. Ah non, autre chose est le dévouement, autre chose est l'amour. L'amour sans dévouement se perd, se dégrade très vite, très vite. Mais l'amour, le dévouement sans amour, n'est pas l'amour. L'effectivité, le réalisme, sans amour, ne sera jamais l'amour. Donc vous voyez que il y a dans cette dualité un ordre différent du côté de l'intelligence et du côté de l'amour. C'est dans une vision de sagesse. Hein. Et ceci est très important pour nous, pour éduquer notre intelligence et éduquer notre volonté. Le développement de notre intelligence est entre nos mains et le développement de notre affectivité est entre nos mains. Et très souvent, nous ne voyons pas ce double développement qui doit toujours être en harmonie. Autrement, il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre provient de là. Il y a un déséquilibre intellectuel. Je vous l'ai montré avec le point de vue de la phénoménologie. C'est un déséquilibre. Et il y a un déséquilibre du côté de la volonté quand vous ne voyez pas que la volonté se développe de deux manières et quand vous ramenez tout à Descartes et quand vous ramenez tout à l'affectivité, il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça que l'influence de Descartes a amené le primat de l'efficacité.